Bonjour, bonsoir, vous écoutez Voix de Fée, l'émission du collectif anarchiste La Nuit sur les ondes de Sequoia. Vous êtes en compagnie de Nicolas,
Jenny
et François.
Et François, la mise en onde exceptionnellement. Qu'est-ce qu'on a cette semaine? Qu'est-ce qu'on a? On a des nouvelles internationales.
Je vais parler d'une nouvelle manifestation étudiante à Lyon qui a eu beaucoup de personnes d'arrêter, qui a eu des émeutes en Italie, manifs étudiantes. Puis aussi de la Suisse qui a approuvé l'expulsion des criminels étrangers par référendum.
On va revenir sur la victoire historique des responsables de services de garde en milieu familial. Aussi sur une lutte pour la forêt Broadback dans le nord du Québec, une lutte méconnue. On va avoir notre chronique de blagues habituelle. Et si on a le temps, on va même avoir une spéciale dédicace pour tous les Éric Duhem de ce monde. Puis, peut-être aussi la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Avant tout, aujourd'hui, c'est le premier. Et puis, je me suis dit que c'était le meilleur moment pour passer la toune Le Premier de Manu Militari. C'est une chanson qui se retrouve sur l'album Crime d'honneur, qui a été sacré album hip-hop de l'année en 2010 au Gala de la Disque. En fait, à l'autre Gala de la Disque, sur les ondes de Sequoia 88.3 Québec. Vous écoutez Voix de Fée.
Quand t'as même pas de ticket de l'auto à valider. Et quand tu te dis j'aurais peut-être dû me trouver du boulot, pas besoin de chier pour savoir que c'est le bout du rouleau. C'est le moment où même l'été ressemble au mois de décembre, puis que les fumeurs cherchent une poche au milieu décembre. C'est le moment de descendre les bouteilles vides au dep, puis comme il fait pas crédit, va falloir faire avec. Les rues sont dead depuis à peu près une semaine, y'a presque plus de distributrices de chaleur humaine. On se croirait à campagne, l'économie en panne, puis même d'un crack house, personne n'en parle pas en plan. Qu'est-ce que tu veux faire à part fixer le plafond puis dire que le chèque arrive dans pas long? Rien, parce que t'as rien à dépenser. Tu dis que t'es inutile comme un frigo débranché. Parce qu'il y a plus rien à quoi se rattacher. Même le Canadien nous procure aucune fierté. La fin du mois est plus sombre qu'un gothique. Mais combien d'imbéciles pensent que le monde en profite? Ils savent même pas ce qui se passe loin du devant de la scène. Parce que le monde se cache quand ils vivent dans la gêne. De toute façon, c'est comme si ça s'était jamais produit. Le problème est vite réglé parce qu'aujourd'hui, on repart à zéro. Parce que c'est le premier dans les ghettos qui sont l'envie du monde entier. Je sais pas où le bonheur réside, mais je sais que chez nous ça va des records de suicide. Aujourd'hui c'est le premier dans les ghettos qui sont l'envie du monde entier. Je sais pas où le bonheur réside, mais je sais que chez nous ça va des records de suicide. Dans le cash arrive, c'est le jour de la libération. Les plus endormis se réveillent de leur hibernation. Ça pète le feu, les rues sont pleines d'athlètes. Compétition, course à pied, direction l'Instachec. Parce que l'argent déclenche passion comme la Palestine. La file s'impatiente devant le Valentine. Ça parle fort, ça se pousse pour avoir sa place. Y'a tellement de monde qu'elle dépend gage une armoire à glace. C'est le retour du beau temps, le monde est chaud comme à Rio. Malheureusement, c'est aussi le retour du proprio. Pis ce si-là, il repart avec ton sourire. Il te laisse rien qu'avec des petits des envies de le voir mourir. Fait que tu retournes au rythme, la misère t'imposait. Une chance que l'école donne des berlines baudelées. Mais pour acheter la paix, c'est la meilleure solution. Ça leur revient pas mal moins cher qu'une révolution. Puis mort de la main qui te nourrit serait vraiment ingrat. Fait que tu fais le beau avec une caisse de 24 d'un bras. Tellement sous de bonheur, pis capable de tenir debout. Un gros merci à l'État qui s'occupe de nous. Puis qui nous chérit, malgré tout, malgré sa maladresse. Tant pis pour ceux qui ont pas d'adresse. Tant pis pour la chienne de misère qui nous entoure. Rien à foutre de rien, parce qu'à chaque 30 jours, on repart à zéro. Parce que c'est le premier dans les ghettos qui sont l'envie du monde entier. Je sais pas où le bonheur réside, mais je sais que chez nous ça bat des records de suicide. Aujourd'hui c'est le premier dans les ghettos qui sont l'envie du monde entier. Je sais pas où le bonheur réside, mais je sais que chez nous ça bat des records de suicide.
Et donc, c'était Manu Militari, le premier, sur les ondes de Sequoia 88.3. Vous écoutez toujours Voix de Fée et on s'en va pour un bloc, un premier bloc d'actualité.
Québec, joli cœur, 100%. Québec, kangourou, 100%. Saguenay, Minimonde, 100%. Pour un grand total national d'acceptation à 99%.
Saint-Hyacinthe, 28 novembre 2010, Assemblée historique des responsables de services de garde en milieu familial syndiqués à la CSN. 800 éducatrices rassemblées pour le vote final sur leur première entente collective après une bataille qui a duré plus de 10 ans. Extrait. Claudette Carbonneau, présidente de la Confédération des syndicats nationaux, s'adresse à l'Assemblée.
Je voyais tantôt les gens de Québec se lever et je me souviens, au moment des premières accréditations, j'étais là dans la salle, devant la commission des relations de travail, et je vais vous dire, c'était odieux. C'était la bataille de David contre Goliath. Des femmes qui faisaient un métier respectable, qui essayaient de faire reconnaître la valeur de leur travail, puis un armada d'avocats pour les empêcher de s'organiser. On connaît la suite, vous avez réussi, mais surtout quand je vous dis que c'est une journée historique, c'est qu'il y a au Québec 16% de la main-d'œuvre qui travaille avec un statut d'autonome, qui est privé de tout ce dont vous avez été privé pendant de nombreuses années, et vous êtes le premier groupe à ouvrir la porte. Alors je vous dis... Je suis extrêmement tant fiers qu'on vous ait accompagnés. Vous savez, la première mission du mouvement syndical, c'est de travailler à ce que les travailleuses, les travailleurs soient respectés et qu'on puisse contribuer de façon tangible à améliorer leurs conditions de travail. Et notre première responsabilité, c'est de tendre la main à celles et à ceux qui ne sont pas organisés, à ceux qui sont parmi les plus mal pris. Alors aujourd'hui, je suis fière de constater qu'on tourne la page sur une injustice historique et qu'on commence à construire un métier dont vous avez toutes les raisons d'être fiers, parce que c'est socialement utile, c'est utile aux parents et c'est utile pour l'avenir de la petite enfance. Alors là-dessus, merci, on lâche pas, on continue.
C'était un montage sonore de Voix de fait réalisé à partir d'une vidéo de la Fédération de la santé et des services sociaux trouvée sur YouTube.
Hey, vous êtes toujours sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec. Tendez l'oreille, on parle de vous.
Dans la forêt boréale, avec les cris de Wassawanipi et Greenpeace. Pour sauver la forêt Broadback. Vallée de la Broadback, nord du Québec, octobre 2010. Nicolas Mainville, responsable de la campagne forêt de Greenpeace.
On est ici au bord de la vallée de la rivière Broadback, une des perles de la forêt boréale, parmi les dernières forêts intactes du Québec. On s'unit aujourd'hui, Greenpeace, avec la Nation Cree de Waswanipi pour bloquer l'exploitation future de cette forêt.
Paul Gull, chef de la Nation Cree de Waswanipi.
We don't want a bridge to be crossed.
Nous ne voulons pas de pont qui traverse la rivière.
I only have 800 hectares.
J'ai seulement 800 hectares de protégés dans la région. C'est facile pour eux de faire des routes, mais c'est difficile pour eux de construire un parc. Nous réclamons la création d'un parc de biodiversité, sans réussir à l'obtenir. De plus, nous ne protégeons pas l'habitat naturel des animaux, spécialement celui du caribou forestier. C'est son dernier refuge, le reste a déjà été coupé.
On doit imposer un moratoire de coupe sur l'ensemble de la vallée de la Broadback et créer une grande aire protégée. Le gouvernement du Québec s'apprête à donner des permis à Econ Timber Corporation d'aller couper cette forêt de l'autre côté de la rivière Broadback, une des dernières forêts intactes du Québec. Aujourd'hui, Greenpeace et les cris de Waswanipi s'unissent pour dire au gouvernement du Québec que ces permis ne doivent pas être accordés.
Le chemin de la destruction s'arrête ici. C'est une inscription qui figure sur une barricade montée par les écologistes et les militants des Premières Nations sur la route qui mène à la rivière Broadbank.
La compagnie Econ Timber Corporation refuse toujours d'abandonner son projet de chemin controversé et de pont pour traverser la rivière Broadback et d'aller exploiter la forêt de l'autre côté. Les Cree et Greenpeace disent que cette décision corporative n'est pas justifiée et qu'elle s'en va dans la mauvaise direction. Elle doit abandonner absolument ses projets maintenant.
Il y a une nature d'avoir peut-être
Je veux m'assurer que les terres de Waswanipi seront protégées pour les générations futures. Dépêchons-nous, agissons concrètement. C'était un montage sonore de voix de fait réalisé à partir d'une vidéo de Greenpeace disponible sur YouTube. Pour en savoir plus sur la campagne et pour signaler d'appui, vous pouvez aller sur notre blog à voix de fait avec un X et un S.blogspot.com.
Et vous savez, voix de fait, c'est aussi de la musique. Alors, on va écouter maintenant une pièce tirée du folklore français, Petit Chef des Blaireaux. Ou tue ton boss de Gerbia.
Blague anarchiste. C'est quoi la différence entre Monseigneur Turcotte puis l'échangeur Turcot? L'échangeur Turcot permet d'emprunter plusieurs directions, alors que Monseigneur Turcotte permet d'en suivre une seule. C'est quoi la différence entre les personnes chanteuses d'opéra et les personnes social-démocrates? Les chanteuses d'opéra font entendre leur voix plusieurs fois par année, tandis que les social-démocrates font entendre leur voix une fois tous les 4 ans. Quel est à la fois le plus gros avantage et le plus gros inconvénient des élections? C'est que toutes les candidatures sont systématiquement éliminées, sauf une. C'est quoi la différence entre gratter un billet de loterie et remplir un bulletin de vote? Au casino, on a tout à perdre et rien à gagner, alors qu'au bureau de vote, c'est la même chose, mais le plaisir en moins. C'est quoi la différence entre les billets de loterie et les élections? Les billets de loterie ont une chance infinitésimale de changer une vie, alors que les élections n'en ont aucune.
Hey, c'était la chronique de notre chroniqueur en région éloignée à Montréal, Thomas, qui nous fait sa traditionnelle blague anarchiste. Et puis, ben voilà, nous, ça nous est arrivé souvent, vous êtes toujours à voix de fait sur les ondes de Sequoia 88.3 à Québec, ça nous arrive régulièrement d'écouter la radio. Ben oui, hein, on fait de la radio, puis on en écoute. Et souvent, on sort les conneries que la droite fait. Puis là, ben là, on s'est dit que, coudonc, des fois, il n'y a pas juste des conneries qui se disent à la radio. Bon, faut aller un peu loin pour écouter des affaires intelligentes, mais... Il arrive qu'il y a des choses intelligentes qui se disent à la radio, puis là, ben là, j'écoutais dans mon baladeur une émission franchouillarde, puis je me suis dit, mon Dieu, mais ce gars-là, il est en train de répondre à Éric Duhaime, il est en train de répondre à Choix, puis à toutes les tripeux libertés à Québec qui opposent la liberté et l'égalité, puis ben, je me suis dit que je vous le partagerais. Puis ben après l'émission, là, je vais m'organiser pour mettre ça sur le blog en lien pour que vous puissiez aller l'écouter au complet. Donc c'est un extrait de Là-bas si j'y suis, une émission de Daniel Mermet. Puis là, il est en entrevue avec Daniel Ben Saïd. C'est une voix d'outre-tombe parce que Ben Saïd, depuis, il est mort.
Alors, autre chose concernant Marx, Engels et le communisme, c'est la question de l'individu. Parce qu'on oppose une espèce de masse collectivisé comme ça, de personnages, d'êtres humains à peine distincts les uns des autres. Voilà, ça, ce serait le communisme. Et puis, on aurait de l'autre côté des personnalités, des personnages, des individus qui se développeraient à loisir. J'exagère à peine, hein. Or, ce que vous rappelez, c'est que dans le manifeste du Parti communiste de Marx et Engels, ils définissent le communisme comme une association où le libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous.
Oui, oui.
C'est quand même un élément important, parce qu'on oublie trop ça. Hein. On pense que Marx égale masse.
Ben oui, mais parce que finalement, dans le communisme officiel, enfin en tout cas dans le discours officiel qui a été tenu, on a lu la formule à l'envers, hein, souvent. C'est-à-dire que le libre développement de tous conditionne le libre développement de chacun. L'ordre des termes dans la phrase que vous avez citée est pas du tout indifférent. C'est bien le libre développement de chacun comme condition du libre développement de tous. Bon, de ce point de vue-là, c'est pas si surprenant si on pense que Marx est quand même un héritier en ligne directe de la Révolution française et que le développement de l'individu comme citoyen et comme citoyen autonome, comme citoyen émancipé, émancipé des liens, des rapports hiérarchiques, émancipé de la domesticité, émancipé des rapports de dépendance. Donc, l'existence de l'individu comme individu est un acquis des révolutions modernes. Et Marx, non seulement s'appuie là-dessus, mais veut le prolonger. Donc, et son idéal d'émancipation est effectivement l'idéal d'émancipation individuelle. Il y a un autre texte, bon, mais on ne peut pas les citer tous, dans lequel comment il imagine l'individu en question, libre, c'est le jour où chacun pourra être cultivateur le matin, philosophe l'après-midi et poète critique le soir. Il y a même un côté lyrique, utopique là-dedans. C'est l'être complet qui est enrichi de ses multiples activités. Mais derrière, il y a une idée qui est profonde, c'est que un des critères de progrès chez Marx, c'est pas combien de tonnes d'acier ou de charbon, hein, contrairement à ce que quand il y avait les statistiques soviétiques, c'est le fait que les besoins humains soient de plus en plus diversifiés, différenciés, que chaque individu devienne le plus singulier possible parce qu'il est une composition singulière de besoins particuliers, originaux, etc. Donc, c'est effectivement un idéal individuel. Maintenant, il ne faudrait pas non plus inverser totalement la formule. Hein. L'émancipation n'est pas un plaisir solitaire. Les deux vont ensemble, de chacun et de tous.
L'émancipation n'est pas un plaisir solitaire. Alors, vous l'avez entendu à voix de fait, et si vous voulez l'entendre au complet, vous allez sur notre blog, voix de fait avec un X et un S, .blogspot.com. À la fin de l'émission, je cours à la maison et je fais une entrée de blog là-dessus. Sur ce, nous, on a des nouvelles internationales, puis on a même du bruit pour les nouvelles internationales.
C'est que 3000 étudiants qui ont affronté des policiers anti-émeutes à Rome pour dénoncer les coupures aux budgets universitaires. De telles manifestations, ça n'avait pas lieu en Italie depuis des décennies. Les manifestants ont tenté de renverser une camionnette de police en plus de lancer des œufs, des tomates, des bouteilles et des bombes fumigènes aux policiers. Ils ont brandi des banderoles affichant des slogans comme « L'éducation est à genoux », « Il y a des ripostes policières à des gaz lacrymogènes ». En fait, il y a eu des manifestations avant, quelques heures avant l'approbation d'une loi controversée qui, selon plusieurs étudiants et professeurs, accorde au secteur privé une place trop grande au système universitaire public. Des postes d'enseignants seront aussi laissés vacants à cause de réductions budgétaires. La réforme a été approuvée par la Chambre des députés, puis donc maintenant, ça va être soumis au Sénat. La semaine dernière, les étudiants avaient occupé des monuments historiques comme la Tour de Pise et Colisée pour s'opposer au changement proposé par la ministre de l'Éducation, Maria Stella Gelmini. La ministre soutient que les réformes visent à économiser plusieurs milliards d'euros d'ici 2012 puis créer un système fondé sur l'avantage et le mérite. Puis Berlusconi, comme à son habitude, il a accusé l'extrême gauche de fomenter des abus dans la rue. Les vrais étudiants sont chez eux puis ils travaillent. Donc, il va falloir checker. Puis aussi, il y a eu des manifestations moins violentes qu'il y a eu dans plusieurs autres grandes villes italiennes.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Rome, la police a essayé de bloquer les accès au Parlement et c'est pour ça que ça l'a brassé. Pourquoi est-ce qu'il y a des camionnettes qui ont été renversées? C'est parce qu'ils n'étaient pas capables de mettre des lignes d'anti-émeute. Ils ont mis des camionnettes pour bloquer les rues. Donc, pour passer, il fallait renverser la camionnette. D'ailleurs, si vous voulez, là, c'est vrai, il y a déjà une vidéo sur notre blog qui montre ça.
Et puis là, on va souhaiter que ça inspire des vocations peut-être au Québec, parce qu'on ne faut pas oublier que le 6 décembre prochain, c'est la rencontre des partenaires d'éducation.
Oui, bien justement,
ça risque de brasser haute ville.
Je vais en parler tantôt.
À Londres, il y a encore eu d'autres manifestations. Il y a eu 153 personnes qui ont été arrêtées à Londres lors des manifestations d'étudiants qui dénonçaient la hausse des droits de scolarité universitaire. C'est la police qui a rapporté les arrestations après une journée de jeu du chat et de la souris entre les manifestants et les policiers anti-ME qui a culminé par un violent affrontement à Trafalgar Square.
Trafalgar.
C'est ça. Les étudiants, dans le fond, là, c'est l'article qui s'appelle Presse, dont je me fie, fait mon topo, qui a donné plus d'infos plus clairs par rapport à la hausse des frais de scolarité en Angleterre. C'est que cette décision-là, dans le fond, ça triplerait la somme maximale de droits de scolarité, qui permettra aux meilleures universités de facturer jusqu'à 14 000 $ US par année, dans une volonté de réduire le fardeau de la dette du secteur public. Puis là, présentement, les étudiants britanniques paient actuellement jusqu'à 14 175 $ de droits de scolarité par année. Donc, je pense que américain, mais... C'est pas plus clair que quand c'était en euros. Les manifestations dans le pays ont été généralement non violentes. Là. Mais à Londres, les manifestations de vie de la trajectoire prévue de la marche sont éparpillées à travers les rues glacées de la capitale, parce qu'il y a une vague de froid en Europe présentement. Des rangées de policiers en veste jaune montaient la garde devant le Parlement où les étudiants débattaient le mérite de la hausse des droits de scolarité. Il y a aussi eu des affrontements avec les policiers lorsque la nuit est tombée. Les manifestants ont vandalisé un monument érigé en hommage à l'héros de guerre et ont attaqué des commerces avoisinants. La police a indiqué que deux policiers avaient été blessés dans les affrontements, donc ça va peut-être à suivre.
Oui, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en Angleterre, il n'y a pas juste des manifestations. Les manifestations, c'est la pointe de l'iceberg. Mais en ce moment, il y a des occupations aussi de campus universitaires qui se déroulent. Et c'est assez drôle parce qu'il y a, en fait, ça va très large dans le milieu étudiant. Il faudra voir après ça à quel groupe ce soit appartiennent les 10 étudiants, mais ça se mobilise jusque dans les institutions d'élite du pays.
Wow. Une autre mauvaise nouvelle, je pense que c'est la pire de cette semaine, c'est les CIS qui ont approuvé dimanche l'initiative de la droite populiste sur l'expulsion automatique de criminels étrangers, un vote qui suscite déjà de vives réactions d'indignation un an après l'interdiction de construction des minarets. Selon le décompte des votes définitifs dans les 26 cantons de la Confédération, le oui en faveur du durcissement de la politique de renvoi des criminels étrangers l'a emporté avec 56,9% des voix contre 46,1% de non. Le renvoi des criminels étrangers déjà possible en Suisse sous certaines conditions, mais le texte proposé par l'Union démocratique du Centre, c'est pas d'extrême droite, il est pas loin, il est populiste, c'est xénophobe, mais s'il est pas fasciste, c'est pas loin. C'est ce texte-là proposé par l'UDC va plus loin en proposant un retrait automatique du droit de séjour des étrangers inculpés sans prendre en compte la gravité des délits. Quand t'as commis un crime, bye-bye. C'est aussi clair que ça, le renvoi fonctionne autant pour les crimes graves que pour les gars d'abus d'aide sociale.
OK, fait qu'autrement dit, tu vas voler une canne de bine au dépanneur, puis tu peux te faire envoyer...
Exactement, mais si t'as même pas de procès, là, bye-bye. Tu sais, dans le fond, ils voulaient renvoyer les étrangers pour des cas d'abus d'aide sociale, mais si ils suivent la force, c'est pas grave. En tout cas, le vote a tout de suite été qualifié de journée noire pour les droits humains en Suisse par Amnesty International. La section sud de l'organisation s'est déclarée profondément choquée par le résultat du scrutin. Des dispositions violentes des droits humains n'ont rien à faire dans notre Constitution. Les initiants ont une nouvelle fois abusé du droit d'initiative dans le but d'augmenter leur capital politique par des propos xénophobes. Dans le fond, la campagne publicitaire en mode xénophobe par l'UDC a été de fait soutenue par par des affiches ouvertement xénophobes dans un pays qui compte 21,6% d'étrangers. C'est pas comme si c'était proche de 50%. Hein. Dans le fond, Ivan S. Violeur est bientôt suisse, proclamait une d'entre elles à profit des moustachus, musclés à mine patibulaire. C'est que dans le fond, dans le fond, les autres démocratiques du centre sont bien contents de ça, puis ça montre juste un sentiment une avancée de l'extrême droite en Suisse.
Ben, c'est eux autres qui avaient proposé le référendum sur les minarets pour interdire la construction de mosquées.
Puis juste, tu sais, l'Union démocratique du centre, d'une de leurs affiches électorales, c'est un mouton blanc qui crie ce mouton noir en dehors des frontières de la Suisse. Donc, c'est quand même assez clair.
Mmh. Hey boy.
Oui, en Europe, ça marche bien, la droite, encore mieux qu'ici. Eh bien, on va écouter de la musique?
Oui.
Pourquoi pas? Une pièce qui s'appelle « La radio au service des Québécois ». Il n'y a pas de nom de groupe. C'est un vinyle anonyme que j'ai trouvé. Et le titre du vinyle, c'est « Les picteurs de la gloire ». Sur la pochette, ça a l'air d'avoir trois personnes qui tiennent une pancarte. Ils sont comme essentiellement présentés comme des ombres noires sur un fond rouge. Puis en arrière, c'est marqué « Les travailleurs en grève depuis 1972, Radio Mutuelle ». C'est à peu près les seuls indices qu'on a. Donc, c'est pas signé. Et bon, j'ai retracé le gars qui a fait ça. Et puis, c'était vraiment un album qu'il avait fait en solidarité avec des travailleurs d'une radio, les radios de Radio Mutuelle. Puis c'est une grève qui avait duré extrêmement longtemps. Et puis, c'était une méthode de propagande et aussi de financement de leur grève. Alors, voilà la pièce « La radio au service des Québécois ».
La radio au service des Québécois, publicité mensongère, le public cavale n'importe quoi, sous la direction des faux frères, qui débordent dans leur beau bureau, avec cigares déformés, qui ne savent de la radio que le profit qu'on peut tirer. CJMS Radio en tête de file des bas salaires, en tête de port qui ont l'argent et l'employés qui n'en ont pas. CJMS numéro 1, notre public ne comprend pas que c'est l'aliénation totale et l'appauvrissement mental. CJMS Radio en tête de file des bas salaires, qui enrichissent de plus belle les postes radio mutuels. 20 minutes de commerciaux pour 10 minutes de rédisco qui parle de vous savez quoi, référez-vous à ce permis-là. De temps en temps l'animateur, faisant gag une fois l'heure, nous rappelle avec émotion qu'il aime Madame Tartampion. CJMS Radio en tête de file des bas salaires, en tête de port qui ont l'argent et l'employé qui n'en ont pas. CJMS numéro 1, notre public ne comprend pas que c'est l'aliénation totale et l'appauvrissement mental. CJMS Radio en tête de file des bas salaires, qui enrichissent de plus belle les postes de radio mutuelle. Les promotions pour gagner quoi? La chance d'embrasser les héros qui ne compensent même pas le prix du ticket de métro. L'information débilisée, c'est 2 minutes sur le monde, mais pour un match de hockey, on monopolise les ondes. CJMS Radio en tête de file des bas salaires, en tête de port qui ont l'argent et l'employé qui n'en ont pas. CJMS numéro 1, notre public ne comprend pas que c'est l'aliénation totale et l'appauvrissement mental. CJMS Radio en tête de file des bas salaires, qui enrichissent de plus belle les postes de radio mutuelle.
Youhou! Le soum de l'aberration, c'est qu'à la tête de ce palais, on a un bel échantillon de ce qu'on fait de plus épais. Il a un nom qui sonne faux et qui fait rire les syndicats. Un beau jour on aura ta peau, surveille ton poste mon frère Donald. Hey!
CJMS Radio en tête de file des bas salaires, en tête de port qui ont l'argent et d'employés qui n'en ont pas. CJMS numéro 1, notre public ne comprend pas que c'est l'aliénation totale et la pauvreté. radio en tête de pile des bas salaires qui enrichissent de plus belle les postes de radio mutuelle, les postes de radio mutuelle, les postes de radio mutuelle.
Et oui, vous êtes toujours à Voix de fait, l'émission du collectif Anarchiste la nuit. C'est qu'il y a 88.3. Et il y a le conseiller de Stephen Harper, le premier ministre canadien, qui s'est lâché lousse.
Un ancien conseiller senior.
Oui, un peu louche. Il s'est lâché lousse et il a dit lui-même, il a dit qu'est-ce qu'il pensait à propos de Wikileaks. Et ça a donné quelque chose d'assez curieux, assez étrange.
On s'entend, c'était à la télé, la chaîne nationale, CBC.
En direct, probablement.
So I'm just saying, there's some significant stuff, Tom Flanagan.
Well, I think Assange should be assassinated, actually. I think Obama should put out a contract and maybe use a drone or something. You know, there's no good coming of this. I agree, some of the stuff is quite titillating to read. I was strictly struck by the revelations.
Tom, that's pretty harsh stuff. Just for the record, that's pretty harsh stuff.
Well, I'm feeling very manly today. But the revelations about the Arab diplomats asking the United States to bomb Iran, you know, that's extremely interesting. And yet, these guys have to live next to Iran. Now the Iranians know exactly what the king of Saudi Arabia has supposedly said. You know, this is really not stuff that should be out. Even if, you know, in the vast sum of pages, most of it's probably harmless. But there are things in there that really could complicate international relations and even, you know, conceivably lead to war. So, you know, I wouldn't feel unhappy if Assange disappeared.
Well, I gotta say, Tom Flanagan calling for that's pretty strong stuff, but...
Et voilà. It's strong stuff.
Strong stuff. Ben, le monsieur, en fait, finalement, a appelé sur les ondes de la télévision nationale à ce que les États-Unis mettent un contrat sur la tête du fondateur de WikiLeaks, puis ce qu'il soit éliminé, puis qu'il a dit qu'il serait pas triste si
il disparaissait. Ici, Obama, il lui pitchait un drone.
Ouais, c'est ça, si Obama utilisait un drone. Ce qu'il faut noter, par ailleurs, c'est que oui, l'animateur intervient en disant comme, ben, c'est parce que c'est un peu raide, là, ce que tu viens de dire. Mais ça, il prend du temps, puis il y a personne sur le panel qui réagit, tu sais. C'est comme de l'humour, il dit sans rien, puis... Hey, on pourrait le tuer, lui! Ce serait... Ceci dit, c'est excusé depuis. Le monsieur en question.
Oui,
il s'est excusé. Il a dit que bon, il avait peut-être. C'était peut-être un peu de mauvais goût et déplacé, mais on comprend que. Bon.
Il n'avait pas pris ses médicaments, on comprend ça.
C'est un prof de l'Université de Calgary. La droite a raison, les universitaires sont dangereux. Radicaux. Barbu, non, lui, il n'est pas barbu.
Non.
Oh boy. Hey, est-ce que vous étiez au courant qu'en fin de semaine, il y avait le congrès de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec?
Ben oui, même qu'ils ont parlé de sujets intéressants.
Ben oui, mais si... Toi, tu vas sur Internet.
Oui.
Toi, tu vas sur Internet, tu lis pas les journaux.
Ben, je lis les journaux sur Internet. Ah ah!
Parce que si tu lisais les journaux de papier, tu le saurais pas. Ah. Parce qu'ils n'en ont pas parlé ni dans Le Soleil, ni dans le Journal de Québec.
Ah oui?
Du congrès de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Et pourtant, il y avait des journalistes du Soleil et du Journal de Québec qui étaient là. En fait, il a fallu se rabattre sur Le Devoir, qui a fait quasiment une pleine page là-dessus lundi matin, et Rue Frontenac, qui a bien couvert l'événement. Alors, ben voilà, il y a plein de débats, plus ou moins oiseux, à la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Pour faire une histoire courte, là, la FPJQ, qu'est-ce que c'est? C'est un espèce d'ordre professionnel, pas obligatoire, pour quelque chose qui est pas... qui est ou qui n'est pas une profession, c'est pas trop.
C'est ça, ben en fait, il y a des discussions là-dessus constamment.
Ben, c'est ça.
Est-ce qu'on doit professionnaliser les journalistes?
Mais bon, tu sais, c'est ça. C'est pas un syndicat. Il y a, dans la FPJQ, il y a autant des cadres que des syndiqués et tout. Puis, en fait, bon, c'est tous des journalistes. Et puis là, ben là, justement, il parlait de... Est-ce qu'on devrait avoir une carte de presse? Est-ce qu'on devrait avoir un nouveau code de déontologie? Etc., etc., etc. Puis là, il voulait parler du multiplateforme. Puis de l'attitude de Québécois par rapport à ça. Puis Brian Miles, qui est le président de la FPJQ, est contacté PKP. Pour savoir si vous voulez envoyer quelqu'un pour parler de leur politique là-dessus. Mais Copé, il a dit non.
Non, c'est plus trop ses amis, les journalistes. Là,
non, il n'avait pas envie d'envoyer quelqu'un à FPJQ. Et donc, ça l'a amené l'exécutif de la FPJQ à proposer un atelier d'un style un peu nouveau
à leur congrès. Alors, ça s'appelait l'éléphant dans la salle. C'était à propos de Québécois et de qu'est-ce que Québécois est en train de faire à la profession, puis à quel point ça peut être pernicieux et tout. Puis là, moi, j'ai regardé dans les médias de Québécois s'ils en avaient parlé de ça. Puis ils en ont parlé un peu avant. En fait, il y a Richard Martineau qui a fait une chronique là-dessus avant le congrès.
Pour dénoncer les journalistes?
Oui, il traite de momone puis de mauviette puis tout ça. Puis il dit en gros, là, ma gang de tweets, vous avez rien compris. Jessica, ça, c'est dangereux. Jessica, ils ont 10 quotidiens. Puis ils sont ouvertement fédéralistes, sont ouvertement libéraux, mais eux, tu sais, on n'en parle jamais. Eux autres, c'est pas un éléphant dans la pièce, mais Québécois, les maudits Québécois qui veulent vendre de la camelote, ça, c'est dangereux. Québécois, je veux pas vous dire quoi penser.
En fait, effectivement, c'est quand même pas tout à fait bête. C'est-à-dire que Power Corporation, effectivement, c'est dangereux.
Mais c'est ça, ils disent que Power Corporation est 15 fois plus gros que Québécois et tout. Puis que,
mais si on calcule le temps d'attention, là, c'est relativement...
Ah, c'est 50-50. Lui, il disait, t'as 2 quotidiens versus 10 quotidiens, mais 2 quotidiens qui ont 45% du tirage.
Ben, c'est ça.
C'est ça.
T'as 2 quotidiens qui c'est quasiment la moitié là, à eux seuls.
Et Québécois, c'est essentiellement de la communication. Hein.
Puis on parle pas juste des quotidiens, là, faut parler des magazines, puis des TVA, télé, radio, etc.
Tout ça. Et donc, voilà, lui, il a trashé ça. Mais c'était quelque chose. Alors moi, je m'intéresse beaucoup à la question des médias, comme toi d'ailleurs. Puis là, je suis le genre à courir les ateliers critiques sur la presse, le rôle des journalistes, la crise de la presse et tout. Puis je me pointe tout le temps là. Puis bon, c'est tout le temps à peu près les mêmes. Là, tu sais, t'as Bernier de l'Université d'Ottawa. Puis t'as l'autre, là, je me souviens plus du nom, de l'Université Laval. Un ancien journaliste du Soleil. En tout cas, ils sont tout le temps là. Puis là, ils parlent des limites de la profession, puis de la convergence, puis tout ça. Puis c'est toujours gentil. Puis je connais quand même plusieurs journalistes professionnels, surtout des anciens militants, là, des gauchistes ou des ex-gauchistes, ou en tout cas, tu sais plus trop quand t'es élit des fois, mais c'est quand même des gens intéressants. Puis ils sont toujours catégoriques, ils sont libres. La seule affaire, c'est que, bon, des fois, il y a des contraintes d'espace, fait que ça peut arriver qu'ils se fassent couper des paragraphes, tout.
Puis là, on a eu des surprises. Là.
On a eu des surprises, ouais. Parce que là...
Vraiment, c'est quelque chose. Là.
Ouais,
c'est la première
fois
qu'on entend parler de ça. Là. Puis on parle d'un lock-out qui dure quand même longtemps chez Rue Frontenac. Puis là, on commence là, juste à
ça
voir...
Ça commence à sortir. Et donc, dans l'atelier, tu avais justement ce style de spécialiste-là. Bon, tu avais l'ancienne rédactrice en chef du Journal de Montréal qui s'est permis une longue tartine dans l'actualité contre. Tu avais aussi un VP, un ancien VP de la Caisse des dépôts et de placement qui, lui, était pas super content de ce qui était en train de se passer. Et tu avais un jeune journaliste, Patry, c'est ça, David Patry, qui est allé au BAT et qui a dit « Moi, je vais rompre l'omerta. » Moi, là, il y a des choses qui se passent dans cette boîte-là. Puis là, quand on dit rompre l'omerta, ce gars-là, il travaillera plus jamais pour Québécois. Parce que il est allé raconter 2 cas de relations de travail difficiles,
assez
disons.
Assez spéciales, assez graves.
Puis il dit que c'est parmi une dizaine d'exemples. Puis bon, on imagine que le gars, il n'est pas capable au point de l'inventer. Là. Si ça s'était pas passé, il le dirait pas, là. C'est toujours est-il que... Donc, la première, c'est quand il était à la section culturelle du Journal de Montréal. Donc...
Et on sait que Québécois, c'est une grosse business.
Oui,
une
compagnie, des conflits éthiques assez évidents. Puis c'est là qu'elle est la convergence la plus dure. Puis là, ben là, c'est ça. Donc, en fait, quand dans une entrevue au Devoir, Sylvain Lafrance, c'est ça? C'est Sylvain Lafrance, le gars? Le grand boss de Radio-Canada, c'est Sylvain Lafrance? Non, c'est pas Sylvain Lafrance. Enfin, bon, bref, quand il y a le grand boss de Radio-Canada qui a traité le grand boss de Québécois de voyou?
De voyou, et là...
on en a entendu parler. Ça s'est retrouvé dans les médias.
Et Pierre Canada était très fâché. Il l'a poursuivi pour dommage à sa réputation. Il se conduit comme un voyou.
Oui, c'est ça. Il dit il se conduit comme un voyou parce que il voulait sortir du Fonds canadien de la télévision, qui faisait en sorte, finalement, qu'il versait de l'argent, qu'il venait pour atterrir chez Radio-Canada. Il trouvait que c'était pas correct. Fait que quand il a traité de voyou, donc, dans un article dans Le Devoir, la haute direction de Québécois a voulu répliquer à ça. Et là, ils se sont trouvés un jeune, Patrice, ça faisait moins de 3 ans qu'il travaillait au Journal de Montréal. Et puis là, ils sont pas contentés de dire « Hey, mon jeune, tu vas faire un papier là-dessus. » La bosse du jeune est arrivée, elle s'est assise avec lui et elle lui a dicté un texte.
Carrément,
mot à mot. Exactement ce qu'il devait écrire. Et
c'est pas tout.
Et elle lui a dit, puis en plus, tu vas le signer.
Eh oui, fait que tu vas l'endosser. Que tu le veuilles ou non.
T'écris ça, tu le signes et tout. Puis là, c'est pas on va couper un paragraphe parce qu'on n'a pas trop d'espace, puis qu'on se doute un peu que c'est parce qu'ils sont pas d'accord. Non, c'est carrément, on va dicter un texte. Ensuite, plus tard, il a reçu à un autre moment un courriel. Quand la chroniqueuse télé Louise Cousineau de La Presse a mentionné dans un de ses articles que les journalistes du Journal de Montréal posaient des questions tendancieuses dans une conférence de presse qui traitait encore de cette histoire de voyous, là il a reçu un courriel où est-ce que on lui disait carrément quoi écrire sous quelle angle pour attaquer la crédibilité de Louise Cousineau puis lui faire mal. En fait, on voulait révéler au peuple qu'un des personnages de la FLAC était inspiré d'elle. Donc, Éduc Réa la FLAC.
On voulait la décrédibiliser.
On voulait la décrédibiliser parce que semble-t-il que, j'écoute pas cette émission-là, mais il semble que le personnage, la propriétaire du dépanneur est inspiré d'elle. Et les grands boss de Québécois ont fait comme, c'est une information d'intérêt public et peut-être que le peuple ne le sait pas. Puis là, il a refusé. Et après ça, on est venu lui dire, puis il est allé voir ses confrères, puis fait que là, je suis dans une drôle de situation, là, ça fait deux fois, là, puis je trouve pas ça le fun, tu sais, c'est comme, qu'est-ce que je fais? Et ses confrères, ils ont pas dit, dépose un grief. Ils n'ont pas dit, va voir au syndicat. Ils n'ont pas dit, teint-toi de bout, ça n'a pas de bon sens ce qui t'arrive, on va faire quelque chose. Ils ont dit, fais semblant. Quand ça marche pas, fais semblant. Quand il y a un boss qui te donne une affectation que tu trouves que ça n'a pas d'allure puis que tu veux pas faire la job de bras, fais semblant. Fais semblant de faire des téléphones. Fais semblant de travailler sur le dossier. Puis à la fin de la journée, dis-leur, ça n'a rien donné, je suis désolé. Comme ça, tu vas t'en sauver. Tu n'auras pas l'audit de te tenir debout puis de leur dire non. Ils pourront pas t'écraser parce qu'on comprend que, bon, mais tu pourras dire non. Puis là, bon, on se dit, tu sais, c'est dans le domaine culturel. Effectivement, c'est une grosse business québécois. Font de l'argent avec des disques, avec des livres, avec des spectacles, avec des films, avec tout ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que dans ce domaine-là, c'est particulier. Puis on le sait, là, je veux dire, le syndicat l'a dénoncé, là, à maintes reprises, même quand il était pas en lock-out, l'obligation. Ils ont même traîné jusqu'en cours la direction pour non-respect de la convention collective parce qu'ils voulaient qu'ils parlent d'occupation double, puis tout ça. Puis ils disaient, c'est pas une nouvelle d'intérêt. On n'a aucun intérêt à donner trois pages à ça. Ça, on le sait. Mais ça se passe aussi ailleurs. Puis là, il y a comment il s'appelle? Régis Caron, qui ça, c'est pas un petit jeune. Pas quelqu'un là, que ça fait 3 ans qu'il travaille au Journal de Québec. C'est un vétéran, là. Ça fait 23 ans qu'il est là. C'est l'ancien président du syndicat.
Oh.
Puis lui, il dit que le corridor de la liberté d'expression est de plus en plus étroit chez Québécois. Et il raconte, entre autres, que lors de la dernière campagne électorale municipale, il avait écrit un texte très critique sur un candidat qu'il refuse de nommer et qu'on avait refusé de le publier, malgré le fait qu'il l'a réécrit 3 fois. Là, il fait comme, ben, autre chose qu'il mentionne, il dit, j'avais fait un suivi sur une pseudo-enquête du Journal de Montréal sur le budget Bachand, le Québec dans le rouge, puis tout. Fait que lui, tu sais, il prenait une nouvelle, puis il creusait un peu plus, puis tout. Puis quand j'ai donné mon suivi, mes boss m'ont rappelé en disant « T'es-tu obligé de dire ça, tel bout de France? » Parce que ça allait pas dans le sens qu'il voulait donner. Et là, c'est sur des questions politiques. Puis ça continue comme ça. Puis ça a un impact, mais pas juste sur le Journal de Québec puis le Journal de Montréal. Ça a un impact sur les autres médias aussi. Et l'impact que ça a sur les autres médias, là, on le voit pas. Bon, on sait, tu sais, c'est comme il y a de l'influence, il y a des questions de code d'écoute et tout ça. Mais tu sais, il y a quelque chose de gros là, qui a été dit, là. Le chroniqueur télé du Soleil, là, du quotidien rival, il dit que lui, il travaille pour Québécois. Tu sais, moi, je travaille pas pour le Soleil. Il dit, je reçois pas de chèque de paye de Québécois, je reçois des mises en demeure. Fait que finalement, c'est eux autres qui contrôlent ma job, qui contrôlent ce que je vais pouvoir dire, ce que je pourrais pas dire. Et il raconte que ça lui est déjà arrivé, t'as connu Cartelli. Il fait une entrevue avec un journaliste de TVA. Le seul journaliste sonne, c'est son boss qui lui dit, non, tu parles pas à Terrien. Tu parles pas au gars du Soleil.
Okay.
Fin de la conversation. Fin de l'article. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Donc, tout ça pour dire que il y a quelques années, Noam Chomsky avait sorti avec un de ses collègues une affaire qui s'appelait La fabrication du consentement. Puis en fait, son objectif, c'était de monter un système pour montrer l'économie politique des médias, puis comment est-ce que finalement, dans un contexte de liberté, on pouvait arriver à un contrôle de l'opinion, puis à finalement...
À fabriquer des consentements, des opinions.
Des médias qui vont systématiquement dans le sens du statu quo. Puis il avait expliqué comment est-ce que 5 filtres institutionnels mis ensemble faisaient que, même s'il n'y avait pas de patron, par-dessus les épaules des journalistes pour leur dire quoi écrire, ça finissait quand même au bout de la chaîne de production par produire le même effet. Ben là, franchement, c'est Chomsky sur l'acide. On n'aurait jamais pensé que c'était ça, mais tu sais, les pires théories de la conspiration sont confirmées. Je veux dire, il y a des gars qui se font, puis des filles qui se font dire quoi écrire.
Évidemment.
Ils sont juste invités, ils se font dicter des textes.
Puis là, je le souligne, ça fait près de 2 ans, l'accord, puis ça commence juste à sortir. Là, ouais. Fait que, à un moment donné, réveillez-vous, les journalistes. Là,
hein, ben, je voulais dire, ben, c'est pas... On m'a dit, ça dépend aussi beaucoup de la colonne vertébrale du journaliste, de sa personnalité, de comment est-ce qu'il se sent par rapport à ça. C'est peut-être vrai, mais bon. Ce que je voulais souligner aussi quand même, là, ça fait plus que 2 ans maintenant, le l'enquête au Journal de Montréal, un des éléments d'espoir de l'anarchisme et des radicaux, c'est que la lutte, ça joue sur les consciences. Être en lutte, être en conflit, ça joue sur les consciences. Et j'inviterais les auditeurs et les auditrices à regarder la copie papier de Rue Frontenac toutes les semaines et à vous rappeler que cette affaire-là est produite par du monde qui a 3 ans faisait le Journal de Montréal. Puis je pense qu'il y a quelque chose qui joue sur les consciences, il y a quelque chose qui est en train de changer.
Ouais. J'ai vu un bel article de 2 pages avec la face de Mario Dumont qui se fait pousser la moustache, là.
Ben oui!
Je veux dire, c'était ça la nouvelle, là?
Non, ça, c'était la culture. C'est pas pareil. Mais il y a quelque chose. Non, il y a quelque chose. Il y avait aussi une chronique d'une pleine page qui expliquait que l'Irlande, c'était le modèle néolibéral, puis qu'il s'était planté, puis que le modèle au complet était en train de se planter, ce qui est quand même pas si mal. Moi, je te dis, il y a quelque chose à vérifier là. Ça s'en vient intéressant, à mon avis.
Puis là, à 2 semaines, je pense, il y a eu quand même aussi un topo sur la situation économique au Témiscamingue qui est difficile, qu'on a parlé ici, aussi, puis les autres médias sont encore utiles, puis les autres ont fait un topo là-dessus.
Ils ont fait une enquête sur les groupes pro-vie qui conseillent les femmes qui sont enceintes. En tout cas, bref, c'est quelque chose à surveiller, puis je pense qu'il y a quelque chose qui s'en vient là-dessus. Je vais tout de suite enchaîner avec les plugs parce qu'on n'aura pas le temps.
Il y a des gens qui disent que Rue Frontenac va rester tout le temps, puis que carrément les journalistes vont laisser faire le Journal de Montréal.
Ben, il y a des fortes chances. Je veux dire, Péladeau, il veut juste en embaucher 17. Tu sais, je veux dire, il veut embaucher le même nombre de journalistes qu'il envoie de l'Est à Granby.
Mm-hmm.
Enfin, bon. Puis c'est entre autres pour ça qu'ils sont pas revenus la dernière fois, parce qu'il leur dit qu'il faut que vous fermiez Rue Frontenac. Ils veulent pas le fermer. Bon, après, c'est ce que ça peut être rentable, c'est une autre histoire. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger. Il y a des plaques tectoniques qui bougent, à mon avis, dans la tête de certaines personnes. C'est pas une mauvaise chose.
On va se souhaiter que ce soit pour le mieux.
Ben oui, on va souhaiter que ce soit pour le mieux. OK, je voulais y aller avec 2 plugs, puis après ça, on pourra finir en beauté en musique.
Oui.
Donc, il y a le souper de la solidarité. Samedi, c'est les groupes populaires de Québec qui se rencontrent au Centre Horizon. C'est entre autres la station de radio ici qui participe à ça. C'est le Fonds de solidarité des groupes populaires du Québec Métro auquel participe CKIA, qui organise un souper au Centre Horizon, 801, 4e rue, à Limoilou, à Québec, évidemment. C'est un... En gros, là, c'est 15$ pour rentrer, puis c'est gratuit pour les enfants de 10 ans et moins. Il y a un coin pour les tout-petits. C'est une bouffe qui est vaguement correcte, mais c'est une belle soirée avec les gens. Et entre autres, cette année, il va y avoir Barbe Alley, un band qui est formé de Fred Carrier au banjo, concertina guitare, de Luc Dawson à la contrebasse, de Catherine Lefrançois à la mandoline, qui est un band qui existe depuis 3 ans. Puis ces musiciens-là se produisent aussi dans le groupe Zephyr Artillerie, qui vont égayer notre soirée et qui va se poursuivre en danse. Donc, vous pouvez acheter les billets ici ou dans les groupes du Fonds de solidarité, par exemple, il faut aller au Comité populaire Saint-Jean-Baptiste au 418-522-0454 pour mettre la main sur un billet. Vous pouvez aussi directement vous pointer là-bas à partir de 5h30 samedi. Ça risque d'être plaisant. En tout cas, c'est la place pour rencontrer des gens qui sont impliqués dans les groupes communautaires au centre-ville. Et l'autre chose que je voulais ramener, c'est lundi, le 6 décembre. Alors, comme tu le disais, François, il va y avoir une rencontre des partenaires en éducation qui est convoquée par la ministre de l'Éducation. Et de toute évidence, le gouvernement va tenter à cette rencontre-là d'obtenir un consensus sur une hausse des frais de scolarité. Il faut souligner d'ailleurs que là, il y a aussi des plaques tectoniques qui bougent. Là. La FTQ aujourd'hui a adopté à l'unanimité une position sur la gratuité scolaire. Et donc, c'est ça. Il va y avoir cette affaire-là. Puis, en gros, là, selon le journal de la C, l'Association pour la solidarité syndicale étudiante, il y a trois scénarios qui sont à l'étude. Un premier scénario, c'est 500$ par année d'augmentation jusqu'à ce que les frais atteignent 80% de la moyenne canadienne. Un deuxième scénario, c'est la modulation des frais selon le programme d'études. Et un troisième scénario, ce serait d'atteindre la moyenne canadienne des frais de scolarité, soit 5 350$ sur une période de 4 ans. Fait que, c'est ça. Il va y avoir plusieurs associations étudiantes qui vont être en grève. Il va y avoir deux manifestations étudiantes. Et nous, on va se solidariser avec le mouvement étudiant. On vous appelle à le faire. Il y a des groupes sociaux qui vont avoir une bannière « Groupes sociaux opposés à la hausse des frais ». On se rencontre le 6 décembre à 13h en face de l'Assemblée nationale près de la fontaine de Tourny. Alors, c'est une invitation de la coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics et du collectif anarchiste La Nuit. Vous écoutiez Voix de Fait en compagnie de Nicolas.
Jeannie.
Et François. Et on se dit à la semaine prochaine.
Eh oui.
Voix de Fait avec un X et un X. .blogspot.com.